Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Yann Zerzavi, la simple vue par écrit de son nom a autrefois dû en effrayer plus d'un en France pour qui voulait prononcer le patronyme de ce peintre tchèque dont le destin est en partie lié à l'Hexagone. Depuis la fin mai, le manège du palais Wallenstein à Prague a eu une rétrospective de son œuvre à l'occasion des 30 ans de sa disparition. L'occasion de se pencher sur un personnage et des tableaux qui souvent donnent l'impression de nous embarquer dans un monde onirique et mythologique parfois un peu dérangeant. De 150 œuvres en tout, dessins, peintures à l'huile, illustrations, essais graphiques, la Galerie nationale, dépositaire de l'œuvre de Yann Zerzavi, a rassemblé un éventail représentatif de la création de l'artiste né en 1890. Andrzej Chrobak, directeur de la collection des œuvres graphiques et dessins de la Galerie nationale, rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, Zerzavi fut interdit, comme bon nombre d'artistes, par les autorités communistes, avant de pouvoir retrouver le chemin des galeries et salles d'exposition lors des débuts de la libéralisation du régime dans les années 1960.
Les expositions de Yann Zerzavi après la Deuxième Guerre mondiale ont toujours été un événement non seulement culturel, mais aussi et surtout politique. En 1963, s'est déroulée une exposition dans la galerie Manès. 110 000 personnes sont venues voir cette exposition. Un chiffre tout à fait honorable et surtout inimaginable aujourd'hui. Le conservateur de l'époque a plus tard déclaré que cet intérêt n'était pas uniquement lié à l'œuvre de Yann Zerzavi en tant que tel, mais à sa personnalité et aux connotations politiques du phénomène. Yann Zerzavi a toujours été, surtout après la coupure de 1948, considéré par les représentants du réalisme socialiste comme un des liens avec la culture de la Première République, avec la tradition de l'art moderne. Pour la plupart des gens qui venaient le voir, c'était une forme de résistance molle liée à la libéralisation qui avait commencé en 1963.
Mais Yann Zerzavi, rappelle Andrzej Chrobak, n'était pas qu'une figure de l'opposition. En 1965, il fut nommé artiste national et beaucoup d'apparatchiks, qui de toute évidence versaient dans l'art et la qualité, souhaitaient faire l'acquisition de certaines de ses œuvres. En 1990, rebelote, une exposition est à nouveau organisée, mais toujours dans un contexte politique fort. Pour Andrzej Chrobak, donc, cette nouvelle exposition est enfin l'occasion de voir des œuvres de Zerzavi, c'est de leur charge politique, et d'apprécier sa création du seul point de vue esthétique. Le nom et l'œuvre de Yann Zerzavi sont étroitement liés à une région de France où il passa plus d'une dizaine d'années, la Bretagne. Zuzana Novotna, commissaire de l'exposition rétrospective, rappelle comment le peintre tchèque a fait connaissance avec la France et avec cette région.
Yann Zerzavi se narodil před rokem 1900 a to byla doba.
Jan Zerzavi est né avant 1900. Lorsqu'il a commencé à créer, c'était une époque où Paris était un centre artistique où tous les jeunes artistes de l'avant-garde venaient s'y installer. En 1906 ou 1907, Yann Zerzavi a fait son premier voyage à Paris où il a découvert Léonard de Vinci au Louvre. Bien entendu, l'art tchèque était influencé par Paris. Il a alors découvert Gauguin, qui peignait aussi en Bretagne. Ça a été la deuxième impulsion pour revenir. On dit que c'est sa petite amie qui a choisi la Bretagne comme destination où il a alors pu se concentrer sur son travail au début des années 1920. Il vit d'abord à Paris, se rend de plus en plus en Bretagne, où il finit par construire sa maison, où il passe l'essentiel des années 30.
Svůj dům, kde může tvořit a většinu času v 30 letech tráví tam.
Ses retours en Tchécoslovaquie sont peu fréquents. Mais cette lune de miel entre Zarzavi et la France prend fin avec les accords de Munich en 1938. Jan Zarzavi rentre dans son pays d'origine. Il est d'une part furieux du lâchage français et d'autre part obligé de retourner chez lui car le climat politique international a bien entendu changé. Pourtant, la France continue de l'inspirer. Pendant la guerre, il continue à peindre la Bretagne d'après ses souvenirs et après-guerre, il y retourne encore une seule et dernière fois. L'Italie et la Grèce seront ses destinations à l'avenir. De manière instinctive, Jan Zarzavi sent et s'intègre dans l'air du temps artistique de la fin du XIXe siècle et il réagit aux essais de l'avant-garde, comme le confirme Zuzana Novotná.
Jan Zarzavi byl solitární umělec.
Jan Zarzavi est un artiste solitaire, mais il suivait bien entendu les courants artistiques autour de lui. Avant la guerre, il était dans l'association Sursum et en 1918 dans le groupe Tvrdošíni avec Josef Čapek. Il a pris de l'indépendance justement avec ses voyages en Bretagne. Il avait plusieurs amis qui l'ont aidé à se faire connaître. Plus tard, il a fait la rencontre de Takar Stormarien. Pour la maison d'édition de celui-ci, il a réalisé plusieurs illustrations de livres comme Mai de Karel Hinek-Macha et Kikitse, Karel Jaromír Erben, qui sont donc liés à son nom dans les années 1930. La sortie de Mai en 1925 a donc beaucoup rapproché Zarzavi du public et il est devenu un artiste recherché.
Kikitse, c'est aussi une cantate du compositeur Bohuslav Martinů que le compositeur tchèque avait créé exprès pour son ami Jan Zarzavi. Et c'est cette musique que j'ai choisie pour accompagner tout le long ce portrait du peintre. Influencé par le pointilliste Georges Seurat et le symbolisme primitif de Paul Gauguin, il est à l'écoute de son temps, des styles de la décadence et de l'expressionnisme, mais aussi du cubisme grâce à son ami Bohumil Kubišta. Ces modèles, il les trouve dans la peinture médiévale de la Bohème, Maître Théodoric, mais aussi en Italie, avec Fra Angelico, Giotto et Léonard de Vinci, mais aussi le Greco. Léonard de Vinci fut d'ailleurs son modèle depuis l'enfance lorsqu'il étudiait les principes picturaux que celui-ci avait théorisés. Magique, tout en rondeur ou en figure simple ou géométrique, figure tout en courbe ou visage taillé au couteau comme dans du bois tendre, paysage onirique ou plus réaliste. Jan Zarzavi surprend et attendrit. Il les met parfois un peu mal à l'aise, un peu comme peuvent le faire certains visages de femmes peints par Luca Crana autrefois, ou pour les femmes aux yeux étirés de chat, on ne sait si on doit les admirer ou en avoir peur. Une ambivalence des formes esthétiques, des changements au cours de sa création qui, d'après Zuzana Novotná, correspondent à sa propre ambivalence psychique et à une expression qui virait parfois au narcissisme.
Zarzavi a créé son propre mythe, il s'auto-stylisait, et cela depuis son jeune âge. À l'école des arts et métiers, il a pris le surnom de Gauguin. Plus tard, il a incarné l'image du vieillard à la grosse moustache, bien entretenue, avec un béret à habit de velours. Il aimait à se représenter. On peut voir certains de ses portraits dans l'exposition. Il se projetait aussi dans d'autres personnages de ses thèmes, comme Assurbanipal ou encore dans des figurines problématiques telles que les fées des bois, où l'on retrouve cette forme d'ambivalence, narcissisme, voire homoérotisme.
L'exposition des œuvres de Jan Zelzavi s'achèvera le 16 septembre. Je vous rappelle également que les morceaux de musique qui ont été choisis sont ceux du compositeur tchèque Bohuslav Martinů, Kytice. C'est la fin de Culture sans frontières. Merci à l'équipe de production pour la préparation de cette rubrique et également à Magdalena Hrozinkova pour la prise de son. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles.
Vous avez dit la République tchèque.